Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons commencer dans quelques jours le carême avec toute la pénitence qui est exigée par par nos péchés et nos défauts. Mais avant cela, aujourd'hui, quinquagésime, l'Église veut nous donner de l'enthousiasme. Et parce qu'il n'y a pas de pénitence possible sans enthousiasme, et à la limite même, la pénitence cesse d'être une pénitence lorsque véritablement nous sommes enthousiasmés. Quel est l'enthousiasme du chrétien? C'est la charité. Et nous allons régler notre manière de faire sur la manière de faire de Dieu. Parce que le chrétien, en tant que chrétien, imite le Christ est Dieu. Dieu est bon. Dieu aime le bien et il aime faire le bien. Tout d'abord, Dieu est bon en soi. Dieu est la perfection. Dieu, avant d'être une source, parce qu'une source c'est ce qui coule, le torrent coule de la source. Mais avant d'être une source, c'est-à-dire qu'on voit ce qui en découle, Dieu est la perfection en soi, pour soi. Il se complaît dans sa propre perfection. C'est toute l'activité de la Sainte Trinité. Et Dieu va ensuite agir dans le monde. Il agit par son amour, parce qu'il fait le bien. Il n'y a jamais de mal dans l'œuvre de Dieu. Il agit par sa libéralité, parce qu'il donne le bien gratuitement, sans que rien ne l'exige. Et il agit par sa miséricorde, parce que tout le bien qu'il fait consiste d'abord à remédier à la misère de l'homme. Et cet amour de Dieu, Dieu est charité, Saint Jean nous le dit dans une épître. Dieu est charité, il est charité en soi-même, parce que, comme je vous l'ai dit, la vie de Dieu, c'est de se complaire dans sa propre perfection, c'est la charité, l'amour de Dieu pour lui-même, l'amour du Père pour le Fils, pour le Saint-Esprit, et réciproquement. Et cette charité rayonne. Alors il va y avoir en nous-mêmes deux aspects à la charité. Tout d'abord, notre charité se porte vers Dieu. Elle se porte vers Dieu parce qu'elle découle de lui. Dieu se donne à nous en tout premier, et il est normal que nous répondions à cet amour de Dieu par notre propre amour. La charité se porte d'abord vers Dieu. Elle est une complaisance dans la bonté de Dieu, dans la perfection de Dieu. Elle est une joie de vivre avec Dieu. Elle est également une intimité. Aristote, qui n'était pas un père de l'Église, puisqu'il était un païen, mais qui est un très grand philosophe, Aristote, repris par saint Thomas d'Aquin, nous dit que des amis vivent ensemble. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes désirs, ils repoussent les mêmes choses, et ils partagent la même activité. Alors, nous vivons avec Dieu, nous le faisons dans la contemplation, nous le faisons dans la prière, nous le faisons à chaque fois que nous nous recueillons pour être avec lui. C'est le premier aspect de la charité. Et il y a un deuxième aspect de la charité, c'est que, puisque Dieu se tourne vers nous pour nous faire du bien, comme lui, nous nous tournons vers les autres pour l'imiter, pour leur faire du bien. Alors, nous leur faisons du bien par notre bonté, parce que nous faisons le bien et non pas le mal, nous voulons le bien et non pas le mal. Nous nous tournons vers les autres avec libéralité, c'est-à-dire que nous faisons le bien avant même que eux-mêmes, avant que nous attendions quoi que ce soit d'eux en retour, et nous faisons le bien avec miséricorde, car nous nous penchons sur la misère, ce qui est la moindre des choses, parce que Dieu nous a donné une telle richesse par la grâce, par les vertus, par la révélation, par l'Église, qu'il est normal que nous en fassions profiter ceux qui sont appelés à être eux aussi les enfants de Dieu, et puis ceux qui sont même déjà enfants de Dieu et qui en ont besoin. Et alors, dans le carême, nous allons avoir cet enthousiasme de communiquer le bien. Et l'Église nous fait déjà cette première leçon que notre action du carême pour nous aider à rayonner la charité et pour nous aider à prendre conscience de ce qui ne va pas en nous va consister à faire du bien autour de nous. Alors, c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître. Il insiste tout d'abord dans son Épître sur l'importance de la charité. Si je n'ai pas la charité, je peux faire tout ce que je veux. Je suis comme un airain sonnant, c'est-à-dire comme un bronze, un gong, ou une cymbale retentissante. Parce que, vu ce que je vous ai dit sur la charité, que la charité est la vie de Dieu, qu'elle découle de Dieu et qu'elle entre en nous, c'est cela qui va donner de la valeur à nos actions, parce que la charité descend en nous et nous remontons vers Dieu. Par charité, par amour de Dieu, nous faisons remonter notre activité vers Dieu. Si notre activité ne remonte pas vers Dieu, si elle ne vient pas de la charité, alors à ce moment-là, elle est égoïste, elle est orgueilleuse, elle est pour nous, elle est pour le monde, et elle est un désordre, elle est un péché, et nous ne sommes que des cymbales retentissantes. C'est tout l'activisme moderne qui cherche à faire beaucoup de choses dans le monde, mais qui ne cherche pas à agir avec Dieu, comme Dieu, en Dieu, pour Dieu. Alors si je n'ai pas l'amour de Dieu, je suis comme une cymbale retentissante. Je pourrais toujours faire des prophéties, comme le grand prêtre a prophétisé la mort de Jésus-Christ. Et il a fait des prophéties, mais cela ne lui a servi à rien. Cela nous a servi à nous, parce que Dieu a voulu que cet homme mauvais prophétise et dise la vérité, mais cela ne lui a pas gagné le ciel d'avoir dit la vérité. Si j'avais toute la science, si j'avais la foi, même la foi, si la foi n'a pas la charité, elle est morte. Si je pouvais transporter les montagnes et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien, c'est ce que dit saint Paul. Même si je distribuais en nourriture aux pauvres tous mes biens, je ne suis rien. Alors, comment faire pour que la charité soit quelque chose? Je vous l'ai dit, elle descend de Dieu, et descendant de Dieu, elle va imiter le Sacré-Cœur, et le Sacré-Cœur est patient, et c'est pourquoi la charité va être patiente. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons faire du bien aux autres, ne cherchons pas à obtenir le résultat avant même d'avoir commencé. Bien sûr, nous avons du zèle pour les sauver, leur donner la foi, leur éviter même la damnation, mais allons au rythme de Dieu. Lorsque nous allons vers les autres et que nous sommes pressés, les autres sentent que nous agissons pour nous, pour la gloire du résultat, pour la gloire du succès, et que nous n'agissons pas de façon désintéressée, uniquement pour le bien, ne vivant que dans le bien. Alors, la charité est patiente. C'est vrai avec tout le monde, avec les bons qui ont des défauts, et avec les mauvais que nous voulons amener à Dieu. Elle est bénigne. Bénigne, c'est-à-dire qu'elle ne cherche que le bien, elle écoute, elle se met à la disposition des autres, non pas qu'elle écoute nécessairement pour apprendre, parce que quelquefois, encore que nous avons souvent à apprendre, mais pour que les autres puissent ouvrir leur cœur. La charité n'est pas jalouse, c'est-à-dire que peu importe que nous soyons mis en valeur ou pas, pourvu que le bien soit fait, elle n'agit pas pour elle-même, elle ne s'enfle pas, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne se met pas en colère, elle ne pense pas au mal, elle ne se réjouit pas sur l'iniquité. Tout ça, c'est la partie négative, ce qu'il ne faut pas faire. Notre charité n'est pas amère, notre charité n'est pas dure, notre charité n'est pas rugueuse. Au contraire, elle se réjouit de la vérité. Et bien entendu, la charité n'est pas mièvre, elle n'est pas une faiblesse, elle n'est pas un... Nous nous abaissons, mais nous nous abaissons comme quelqu'un qui, sur le bord d'un bateau, tient fermement la rambarde de la main droite et de la main gauche se penche vers le noyer qu'il veut sortir de l'eau. Ce serait une idiotie de croire que la charité consiste à nous jeter à l'eau et au risque de nous noyer avec le noyer que nous voulons sauver. Ah, c'est sûr, nous serions proches de lui, mais alors nous n'aurions plus grand-chose à lui apporter. Alors, la charité se réjouit de la vérité, elle est pour la foi, elle amène à la foi, c'est pourquoi il est très important que nous vivions dans la vérité, que nous vivions de la foi, que nous contemplions la foi, parce que c'est cela que nous transmettons à ceux que nous fréquentons. soit des gens qui n'ont pas la foi du tout et que nous cherchons à convertir, soit même des gens qui ont la foi, mais à qui nous cherchons à faire du bien et que nous voulons comprendre de l'importance des principes, surtout dans la crise actuelle. C'est avec beaucoup de patience, avec beaucoup de bonté, qu'il faut donner la véritable vérité, c'est-à-dire montrer aux gens comment on se perd, y compris dans la fraternité Saint-Pilis, qui est une voie de garage, et même pire qu'une voie garage, une voie fausse. Donc la vérité est virile, la vérité donne le bien. Et pour cela, elle est prête à tout. Omélia souffert, elle souffre tout, elle est prête à tout, elle croit tout, c'est-à-dire qu'elle est bienveillante et elle ne pense pas d'abord le mal chez les autres. Elle espère tout, c'est-à-dire que nous ne nous décourageons pas, nous travaillons avec Dieu, nous travaillons au rythme de Dieu, nous travaillons avec l'espérance que Dieu nous donne, avec les certitudes que Dieu nous donne, et c'est pourquoi elle espère tout, elle supporte tout. Alors, notre Seigneur, et ça va être ça notre carême, charité d'abord envers notre prochain, le plus proche prochain, et puis autant que nous pouvons, j'y reviendrai une autre fois sur l'importance de l'apostolat, mais il est une évidence que nous devons aujourd'hui porter comme un étendard notre foi, notre croix, non pas avec rudesse comme une épée, mais avec bonté, comme un phare, comme la source de toute bonté, comme la source de cette bonté, de cette miséricorde de Dieu dont nous avons été les premiers bénéficiaires. Ne l'oublions pas. Dieu a été bon envers nous. Il a été patient envers nous. Il a été bénin envers nous. Et nous a fait confiance, en ce sens qu'il a attendu que nos qualités mûrissent, et que nous comprenions enfin ce qu'il avait à nous faire comprendre. Nous en avons un exemple dans l'Évangile. L'Évangile et l'Épître sont très liés. C'est tout à fait extraordinaire de voir la profondeur de la réflexion et en même temps du sens apostolique de ceux qui ont composé le missel. L'Évangile est très en rapport avec l'Épître. Vous avez notre Seigneur qui va mourir pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Notre Seigneur va mourir pour nous, et il l'annonce à ses apôtres, pour leur donner l'enthousiasme, pour que justement ils ne soient pas écrasés par la croix, qu'ils ne croient pas que la croix est un échec. C'est ce qu'ils vont croire, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ils se rappelleront les paroles de notre Seigneur, et à ce moment-là, ces paroles de notre Seigneur leur révéleront la beauté de ce que notre Seigneur a fait. Bien sûr, la croix est un scandale, mais elle est un scandale pour le monde, elle est un scandale pour les païens, elle n'est pas un scandale pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus grande preuve de charité envers Dieu, par amour pour Dieu, par pur amour pour Dieu. Jésus-Christ lui ramène ses enfants qui s'en étaient éloignés, les enfants de Dieu. Et puis, dans cette comme source, il découle de cette source de l'amour de Dieu, justement cette miséricorde du Sacré-Cœur qui est bénin, qui est patient, qui supporte tout, qui accepte tout, qui va accepter les mécompréhensions de ses apôtres et tout le reste. Et alors notre Seigneur leur annonce, ils ne comprennent pas, ils ne se rendent pas compte, c'est trop en dehors de leur conception de la vie, de l'honneur qu'on rend à Dieu, même de la vie chrétienne. La vie chrétienne pour eux est un royaume de gloire. Alors, ce n'est pas grave, notre Seigneur leur annonce, plus tard ils comprendront. En attendant, puisqu'ils n'ont pas compris, il va, sans se fâcher, mettre en application ce qu'il a dit, de façon très simple, et il fait en sorte, puisqu'il est la providence, qu'un aveugle passe par le chemin, et il va guérir l'aveugle. Voilà le programme, en grande partie le programme du carême. Or, il y a autre chose. Celui qui fait au bien aux autres se fait du bien à soi-même. C'est-à-dire que nous allons être... Non, notre Seigneur est celui qui guérit l'aveugle, et comme lui, nous allons essayer de guérir des aveugles, mais nous sommes aussi un peu des aveugles. Et en guérissant la cécité des autres, nous allons guérir notre propre cécité. Pourquoi ? Parce que la charité va passer à travers nous, elle va couler à travers nous. Dieu est la source, nous sommes le torrent, et le torrent, plus il va vers les autres, plus il a de pente, plus il a d'énergie, et plus l'eau a d'énergie, parce qu'elle est pressée d'arroser la plaine. Alors plus nous chercherons à arroser la plaine, plus l'eau passera à travers nous, plus elle nous enrichira, et nous serons les premiers bénéficiaires. Et c'est aussi un petit peu pour ça que l'Église nous met cet évangile, pour nous rappeler que nous sommes des aveugles et que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la foi. Vous aurez beaucoup d'applications pratiques, je vous l'ai dit, je crois qu'il est important d'éclairer nos amis qui n'ont pas compris, d'éclairer même nos amis ou nos anciens amis qui suivent la Fraternité Saint-Pilis. Il semblerait, la source est sûre, que Mgr Felet ait acheté une grande maison à Rome, plus qu'une maison, un pâté de maison, et qu'il, avec une église ayant pignon sur rue, que le pape ait facilité cet achat par l'intermédiaire de Mgr Pozzo. Et donc il est évident que la pente que suit Mgr Felet est une pente vraiment vers le monde de plus en plus. Et ceux qui vont le suivre vont nécessairement risquent de prendre la même mentalité. Ils mettent en danger leur esprit chrétien. Donc il est normal de les avertir. Quand je vous dis que Mgr Felet en est à ce point-là, il n'est pas évident pour autant que le pape se presse de répondre à son attente. Hein. Plus Mgr Felet vient vers le pape, plus le pape va attendre pour que Mgr aille un petit peu plus loin. Vous voyez les textes que j'ai mis sur mon site à ce propos. Si vous n'arrivez pas avec la Fraternité Saint-Pilis, agissez avec patience, n'insistez pas, ce n'est pas la peine, c'est que ce n'est pas le moment. Laissons plutôt que de faire des querelles, et puis, eh bien, allons aux autres. Allons à ceux que nous rencontrons, et ne nous contentons peut-être pas de ce que le bon Dieu met sur notre chemin, sachons aller plus loin, comme notre Seigneur est allé plus loin, c'est lui qui a voulu mourir sur la croix, il ne s'est pas contenté d'attendre. Bien sûr, l'aveugle vient sur son chemin, mais c'est une étape, on ira plus loin. Alors, mes bien chers frères, je vais prier à cette messe, puisque comme d'habitude, je fais ce serment le samedi pour que vous puissiez l'écouter demain dimanche. Donc, dans cette messe du dimanche, je prierai pour vous, je vous porterai à l'offertoire, je vous porterai à la consécration, enfin, tout au long de la messe. Et je demanderai particulièrement à la Sainte Vierge de vous donner cette bonté, cette charité, cette patience, cette bénignité. La Sainte Vierge, le jour dès l'Annonciation, dès qu'elle sait qu'elle est la mère du Sauveur, n'a qu'une hâte, une grande hâte, c'est d'aller porter la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth, c'est de lui faire du bien, c'est de commencer à aller vers les hommes pour les attirer à Dieu, pour leur communiquer un enthousiasme. Et effectivement, l'enthousiasme de la Sainte Vierge est communicatif, parce que Sainte Élisabeth, en le voyant arriver, s'exclame, « Oh, oh, mais quel est cet honneur ?» D'où me vient cet honneur que la mère de mon Sauveur vienne à moi? Et alors vous êtes cet enthousiasme qui est communiqué, et alors à son tour, Élisabeth communiquera l'enthousiasme. C'est une évidence. Alors voilà ce que je demande pour vous, voilà ce qu'il faut que vous demandiez. Et puis quant au carême lui-même, un peu plus de précision sur les pénitences à faire, nous en parlerons plus tard. Je vous donne rendez-vous pour un sermon du mercredi décembre, dans 3 jours donc. Mais je n'ai pas voulu aller plus vite que l'Église, et surtout, je n'ai pas voulu vous parler de pénitence sans vous donner l'enthousiasme, sans vous donner la raison de la pénitence. Sinon, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons comme des jansénistes, nous prêchons comme des protestants, nous ne prêcherons plus comme des chrétiens, comme des catholiques. Le catholique est enthousiasmé, le catholique va vers le bon Dieu, le catholique ne pense plus qu'à ça, et s'il y a des pénitences à faire, j'allais dire, c'est accessoire, ça se fait tout seul, quand on veut quelque chose avec ardeur, on est prêt à tous les sacrifices pour l'obtenir. Voilà la joie et la grâce que je vous souhaite et que je demande pour vous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.